recorded down the mountain. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des guillemets.
Bonjour et bienvenue dans le 232e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui, je suis avec Pierre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Pour la première émission en direct de l'année, la précédente avait été faite en direct approximatif. Et nous sommes de retour au studio, c'est la face A. Une phase B.
En attendant le retour de la phase
B. C'est donc l'actualité des deux semaines écoulées. Et on va commencer par de l'actualité législative et les députés qui adoptent le contrôle parental installé par défaut sur les tablettes, les PC et les smartphones. En fait, tout ce qui est connecté à Internet, Pierre.
C'est l'idée. C'est l'idée. Parce que ça ne suffit pas, du coup, d'imposer aux sites web pornographiques d'avoir un contrôle de l'âge sans dire comment contrôler l'âge. Donc là, maintenant, on introduit l'obligation de préinstaller sur tous les appareils un contrôle parental. Et ça pose des tas de questions très, très rigolotes. Par exemple, si un ordinateur est vendu avec FreeDOS.
Ouais, c'était l'April, d'ailleurs, qui s'était interrogé là-dessus. Oui. Est-ce que ça signifie, en fait, l'interdiction de vente d'ordinateurs sans système d'exploitation préinstallé?
Ben oui, c'est une question.
Eh bien, il faudra développer un logiciel de contrôle parental, Pierre, avec FreeDOS.
Ouais, ça va être chaud. Parce que déjà, il va falloir trouver
des développeurs. Ah, bah écoutez, il va falloir coder une pile réseau.
Il y en a, mais pas par défaut, quoi. Il n'y aura pas Epiot. Enfin, ça va être compliqué. Et puis après, ça n'a pas de sens.
Le système est aussi censé être indésinstallable.
Oui, évidemment.
C'est sur un PC, évidemment, c'est-à-dire qu'il faudrait interdire de changer le système d'exploitation livré avec le PC.
Oui, et surtout interdire de désinstaller des applications préinstallées.
Ou de router un smartphone Android ou Apple. Je ne sais pas si ça se route.
Apple, ça se route, mais c'est pas fait pour. Quoi. Mais effectivement, c'est un peu compliqué, les gens, là.
Alors, aussi, une question qui se pose, à laquelle il y a une réponse, et ça va être compliqué, c'est pour les smartphones d'occasion. Tous les produits d'occasion sont concernés par cette obligation.
Mais moi, je te rajoute une autre question rigolote. Comment ça va se passer pour les consoles de jeux? Est-ce que tous les éditeurs de consoles de jeux vont faire un patch pour que leurs consoles de jeux...
Parce que maintenant, les consoles de jeux, par défaut, se connectent par Internet.
Qu'est-ce que ça va donner pour les smart TV? Qui sont déjà sur le marché avec des navigateurs Internet embarqués.
Et qui seraient en plus reconditionnés.
Oui. Et allez, on va aller encore plus fun. Les voitures. Parce que tu as des voitures qui peuvent accéder à Internet avec le partage réseau du téléphone. Et du coup, dans ce cas-là, il faut un contrôle parental sur la voiture ou pas? Si tu as un écran de divertissement à l'arrière.
Oui, c'est vrai, Pierre.
Moi, quand je lis le texte, je suis désolé, c'est tout écran doit...
À mon avis, ça passera sous les radars dans la mesure où c'est quand même une fonctionnalité, je pense, assez rare et réservée à quelques modèles haut de gamme.
C'est vrai que les voitures passent sous les radars.
Merci, Pierre.
Bien joué, Alexandre.
Là, c'est la première de l'année en direct. Mais pas fait exprès. Pour une fois, c'est pas moi qui ai fait exprès.
Et à propos de blocage de sites pornographiques, une petite rigolote, parce qu'il y a un rapport de 2019 qui a été rendu public sur... alors, je vais retrouver le... Je ne sais plus s'il y a le titre. Je ne l'ai plus, je crois. C'était un rapport de l'injection du... C'est un rapport qui a été...
L'inspection générale des finances.
Générale des finances
et
du Conseil général.
C'est le corps d'origine de notre président, Monsieur Pierre.
Notre président.
Oui.
Omicron, pardon. Et donc, dans ce rapport, on apprend que le porno, c'est 20 millions de visiteurs uniques par mois.
C'est-à-dire un petit tiers des Français. Encore, je compte les mineurs. On compte les mineurs. Vous me direz.
Le problème, c'est que Google, c'est 56 millions par mois. Donc, c'est quasiment dur. C'est quasiment impossible d'avoir quelqu'un qui vise pas Google. Donc, ça veut dire que presque. Alors là, le calcul, ça va être plus d'un Français sur trois qui va sur Internet, va aussi sur des sites pornographiques. Donc déjà, ça, c'est assez intéressant. Et surtout, le rapport estime que si on bloque des milliers d'adresses de sites pornographiques, déjà, on va avoir des problèmes techniques avec éventuellement des ralentissements. Et ça pourrait conduire, et ça, c'est ce qui m'a fait le plus rire, ça pourrait conduire à terme à fermer l'accès en France à plus de 12% des sites sur Internet. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés compter.
Oui, c'est ça. Combien, mais... Déjà, comment ils ont compté le nombre de sites français.
Voilà, ou qu'est-ce le nombre de sites français. Oui, ou qu'est-ce qu'un site Internet, au final, c'est la définition est un peu compliquée. Parce qu'un nom de domaine peut héberger plusieurs sites.
Ouais.
Ah, non, je suis désolé, les pages perso de Free.
Non, mais je parle dans l'Internet contemporain. Hein, je parle pas toto@free.fr, Pierre.
C'est un des sites qui existe encore.
Ça peut, oui. Enfin, c'est quand même un peu passé de mode, quand même.
Ou est-ce que la page d'un restaurant sur un truc de restaurant générique, donc oui, il y a un domaine avec plein de sites différents dessus.
Bah, moi, je compte un site. On va pas non plus.
WordPress, et puis, loguer, sûr. C'est un site ce ou c'est un ensemble de sites.
Ce sera peut-être l'objet d'une déguicalisation un jour, Pierre. Qu'est-ce qu'un site internet?
Non, je vais pas le faire. C'est trop compliqué celle-là. Bref, il y a beaucoup de trucs rigolos en ce moment sur le.
Alors, savoir que donc c'est l'Assemblée nationale donc qui a voté. Il faudra que ce soit voté de manière conforme par le Sénat. Le Sénat qui habituellement vote pas exactement dans les mêmes termes. Il y aura des amendements, donc ça fera l'objet d'un aller-retour. Donc les modalités précises, on peut pas vous les dire maintenant. Ce qu'on vous a dit sur le conditionné, sur les quelques détails, ça peut encore évoluer. Donc, affaire à suivre.
Et affaire à suivre, Alexandre, tu viens de me donner une parfaite transition pour l'actualité suivante. Tu viens de dire...
Le filtrage DNS, non, c'est pas celui-là.
Il faut que ce soit voté conformément.
Oui, mais après, on va pas expliquer la navette parlementaire.
Mais non, il y a quelque chose de très intéressant dans l'actualité récente. Et oui, parce que quand c'est voté conformément, le site de référence Légifrance, il faut que ce soit conforme dessus aussi,
vrai,
voyons.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que...
Celle-là, elle est très très belle et j'avoue, j'attends avec impatience une explication parce que c'est vraiment grave.
Alors, est-ce que Légifrance a valeur légale?
Apparemment, oui. C'est ce que j'ai lu à plusieurs reprises. C'est que c'est...
Est-ce que c'est pas consultable, entre guillemets
Qu'est-ce qui a valeur légale pour la loi en France?
Pour moi, c'est le journal officiel.
Oui, mais le journal officiel.
Mais après, vous n'allez pas non plus vous palucher tous les journaux officiels.
Puisque si tu veux trouver l'état d'un article, tu le consultes sur Légifrance. Tu ne vas pas t'amuser à chercher toutes les modifications de l'article.
Est-ce que quelqu'un s'est déjà amusé à vérifier si sur les codes d'Alloz, je vais faire la publicité pour le principal éditeur de code pénal, code civil, de code législatif, code judiciaire. Imagine, ils ont fait une faute de frappe. C'est quand même les codes qui servent de référence aux magistrats.
Tout à fait.
Et imagine, ils ont mal recopié le journal officiel. Et ça, personne n'est jamais, je pense, c'est pas allé vérifier. Eh, mine de rien.
Ah non, c'est
autant en Légifrance, tu vois, l'avantage, c'est que tu peux modifier à la volée facilement. Alors que mettre au pilon et réimprimer l'exemplaire entier d'un code pénal, d'un code civil ou d'un code de ce que tu veux, c'est quand même plus compliqué.
Ah oui. Non mais c'est... Il y a des tas de trucs bien rigolos là. Et du coup, la petite histoire sur Légifrance qui pose problème, vraiment. C'est le site Next Impact qui s'en est rendu compte. Du 1er janvier où ça a duré quelques jours, je crois, donc jusqu'à ce qu'il signale le problème, donc ça a duré une semaine, deux semaines, je crois. Mais donc à partir du 1er janvier, un adverbe avait disparu dans un texte. Et ça a changé considérablement la signification.
Est-ce qu'on a l'erreur précise ou pas? Parce que j'ai juste lu cette histoire d'adverbe.
Ils ont la capture d'écran.
Ah, il y a la capture d'écran.
Et donc, c'était concernant les retraits de... Alors, je peux te lire l'article si tu veux. Donc, les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit pour la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signes, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis, ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite.
Ah, c'est le manifestement?
Le manifestement était
Je sais qu'il y a eu beaucoup de débats sur, je me souviens à l'époque d'Adopit, des VSI, le manifestement illégal. Je sais que ça avait beaucoup... je sais pas si tu te souviens, Pierre.
Oui, je me souviens, c'était le chaos.
Non, mais je me souviens que justement pour essayer de dire que ils font une fleur aux personnes de bonne foi, c'était le caractère manifeste qui était pris en compte. Qu'est-ce qu'un caractère manifeste? Je dirais que la testabilité est assez médiocre, mais bon, c'est une déformation professionnelle.
Manifestement, c'est un ajout de la part du Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui avait fait ajouter ça pour dire que Si quelqu'un lui dit, quelqu'un vient dire ça c'est illicite, c'est pas une preuve. Il faut que quelqu'un dise c'est illicite et que manifestement oui c'est illicite. Et c'est très dur justement de le prouver. C'est à ça que sert l'adverbe. Et là l'adverbe, pendant quelques jours il avait disparu.
Alors est-ce qu'il y a eu du contentieux? C'est aussi la question que posait l'article. Ce serait quand même curieux de le savoir effectivement.
Et c'est tout. Alors, comment c'est possible? Ça, par contre, je bloque
va
là-dessus.
Continuer avec une très bonne intention, à la base, de l'Union européenne, qui, donc, dans une démarche de souveraineté numérique, veut mettre en place un DNS souverain européen. À la base, pour satisfaire les besoins donc, administratifs donc, des Commissions européennes, des institutions européennes, mais avec une ouverture au public. La démarche est très louable. Sauf qu'ils veulent en profiter pour introduire du filtrage dans ces DNS, et là pour le coup c'est quand même beaucoup moins enthousiasmant.
Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, clairement, la résolution DNS, alors en France, la plupart du temps, votre fournisseur d'accès internet vous fournit un résolveur DNS, et sinon vous allez avoir les résolveurs DNS publics de...
On rappelle ce que c'est qu'un DNS,
la traduction ecodegnou.org en 109.190. Je sais plus la fin.
Je connais pas ton adresse. Ça, c'est si tu utilises IPv4. Hein.
Oui, mais le serveur de l'IPv6, je vais pas y arriver. La mémoriser, c'est pas fait pour. Et donc, c'est la traduction pour éviter d'avoir à taper des adresses incompréhensibles et impossibles à retenir. Et du coup, le principe du résolveur DNS, c'est indispensable pour naviguer. Et donc, les fournisseurs d'accès Internet en fournissent. Mais si vous ne voulez pas utiliser celui de votre fournisseur d'accès Internet, ou s'il ne marche pas, ou raison X ou Y, vous en voulez un autre. Aujourd'hui, les principaux autres qui existent, ça va être celui de Cloudflare, celui de Google. J'ai pas connaissance d'autres gros fournisseurs de DNS.
Mais en tout cas, moi, c'est les deux, oui, le 8.8.8.8 de Google et Cloudflare.
Et le 8.8.4.4 de Google et Cloudflare et son 1.1.1.1. Et donc, aujourd'hui, ce sont eux les principaux utilisés en alternative aux fournisseurs d'accès Internet. Et ça, ce sont deux entreprises américaines. Même s'ils ont mis des serveurs en Europe, ça reste une solution européenne. Et donc,
des entreprises qui sont soumises à la loi américaine où se trouve leur siège social.
Et donc, le projet de l'Union européenne, comme l'a dit Alexandre, c'est bien. Effectivement, il y a un problème de souveraineté. Mais si on ajoute le filtrage dedans, ça rend le... truc complètement inutile au final, puisque si c'est pour avoir un contenu qui est filtré, dans ce cas...
Surtout pour l'Union européenne qui est quand même normalement une des garantes de la démocratie en Europe.
Exactement, donc c'est plutôt con. Quoi.
On va écouter un premier morceau de musique, nous allons écouter The Spinwires, Blackout Romeo. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com.
He's got no shine.
C'était The Spinewires, Blackout Romeo. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campuslille.com. C'est la deuxième partie des actualités, et Pierre ajuste son micro. On va parler logiciel libre, bien évidemment, et on va commencer avec la sortie de Wine, qui n'est pas un émulateur, Pierre.
Oui, pour le coup, Wine est un logiciel libre qui permet de faire tourner sous Linux, et sur Mac d'ailleurs, beaucoup de logiciels non libres conçus pour Windows. Donc, assez connu. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que plus grand monde, au final, n'utilise Wine directement. La plupart du temps, maintenant, enfin, les gros utilisateurs de Wine, ça va être des joueurs sous Linux qui vont s'en servir indirectement à travers le projet Proton de Valve. Mais ça reste intéressant de voir les évolutions qui sont faites sur Wine avec un objectif plus long terme, éventuellement, que certains changements court-termistes, on va dire, du côté du projet Proton. Et donc, leur nouvelle version annuelle. Elle arrivera dans toutes les distributions qui sont bien faites dans les prochains mois. Et il n'y a pas de grande annonce de il y a telle nouvelle fonctionnalité qui est supportée, il y a tel nouveau programme qui va fonctionner. C'est surtout un ensemble d'améliorations un peu partout. Moi, dans les trucs qui me semblent importants, il y a une meilleure compatibilité globalement avec les applications .NET, a priori. Donc ça se prend toujours parce qu'il y en a quand même beaucoup sous Windows. Et jusqu'à maintenant, quand j'ai essayé, moi, d'en utiliser sur Wine, c'était des fois assez compliqué. Il y a aussi beaucoup d'améliorations sur tout ce qui est support des jeux, même si, bon, là, donc, comme je l'ai dit avant, c'est en concurrence avec Proton. Et pas mal d'améliorations, et ça va être assez important pour pas mal d'utilisateurs au final, ça va enlever une grosse source de prise de tête, c'est une meilleure compatibilité avec le WoW 64, c'est le terme officiel, hein, attention chez Microsoft, c'est le Windows on Windows 64, c'est le nom que Microsoft utilise pour le fait de faire tourner des applications 32 bits sur un Windows 64 bits.
Ah, d'accord, oui, c'est ils beaucoup moins ça, mystérieux dit comme ça. Oui,
ils appellent ça Windows on Windows. Quand j'ai vu ça, je trouve ça c'est rigolo, c'est bien, Et là, en fait, actuellement, dans Wine, c'est assez compliqué. Aujourd'hui, si vous voulez faire tourner correctement une application Windows 32 bits, vous mettez un Wine 32 bits, et du coup, vous allez avoir tous les composants logiciels Linux en dessous, 32 bits aussi. Il y a beaucoup de gens qui se font avoir, même moi ça m'arrive de me faire avoir d'avoir des applications qui marchent pas en me disant qu'est-ce que c'est, mes messages d'erreur à la con, le truc il est là, je le vois. Ah oui, non, j'ai oublié, c'est une application 32 bits, je dois avoir le machin 32 bits. Ça sera bientôt terminé tout ça. Ça a fortement avancé sur la version 7 et ça sera fini a priori pour la prochaine version. Wine supportera tout seul de faire tourner les applications 32 bits sur un système 64 bits sans avoir rien besoin d'autre que Wine.
Alors tu parlais de liste de logiciels supportés, c'est-à-dire qu'il y a une base de données qui est tenue par Wine, donc sur les retours des utilisateurs.
Et par les utilisateurs.
Enfin, sur les retours des utilisateurs qui peuvent noter en fait l'utilisabilité du logiciel sous Wine, donc c'est plutôt pas mal en fonction des versions de Wine. Donc une base de données qui est mise à jour régulièrement.
On va parler
d'OnlyOffice 7, c'est toujours la version 7.0 en ce moment, qui est sortie, Pierre.
Oui, on n'en parle pas très souvent, parce que je suis moyennement copain avec le projet quand même, mais faisons preuve d'ouverture, parlons aussi des gens qu'on aime moins. Donc OnlyOffice est une suite bureautique open source, clairement, je ne peux pas me permettre d'appeler ça libre.
Est-ce que le code est libre ?
Le code est sous licence libre, oui, mais par contre... Tout le développement est fait par une entreprise.
Et tu peux pas. Bah, il est libre au sens de la Free Software Foundation.
Exactement.
Mais tu considères pas ça comme un. C'est un logiciel libre, mais c'est pas un projet libre.
C'est ça. Et le deuxième point qui me les brise menu sur ce projet, c'est que par défaut, il vise la compatibilité avec les formats Microsoft et pas avec la norme Open Document. Donc c'est pour ça.
Dire que c'est de la réelle politique.
C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à faire la publicité de ce produit, mais bon. Ils ont sorti une nouvelle version et c'est quand même un gros intérêt par rapport à LibreOffice de cette suite bureautique. C'est une suite bureautique qu'on installe côté serveur pour fournir sous forme de page web. Et là, du coup, ça rend ça assez intéressant, notamment pour l'intégration au sein de tout ce qui est Nextcloud et OnCloud pour ceux qui ont leur petit serveur à la maison avec leur propre petit cloud, etc. Ça reste un outil assez intéressant avec, bon, hein, du coup, il y a différentes versions. Il y a la version communautaire, entreprise et développeur, etc. Je me suis jamais trop penché non plus sur tout ce que permet cet éditeur-là, à cause de petits a priori sur le fait que j'aime pas trop les formats Microsoft, je trouve que c'est une mauvaise idée de s'en servir, mais ça reste une suite bureautique à essayer. Avec, ben là, il y a quelques améliorations de compatibilité, des améliorations de fonctionnalité sur la collaboration en ligne notamment. Donc, ben pour ceux qui cherchent ce genre de solution, n'hésitez pas à regarder.
Alors, on va parler donc du coup d'un, on peut dire d'un logiciel, mais d'un bout de code que vous utilisez pas directement, c'est FFmpeg.
Ah, c'est certain que vous l'utilisez, je pense.
Mais pas directement.
C'est ça.
Via vos lecteurs vidéo favoris.
Tout à fait.
Alors... vidéo et audio d'ailleurs.
D'ailleurs, je me demande, ben là, je vais vérifier en direct instantané approximatif sur l'ordinateur ici. Je crois que l'émission utilise du coup pour son fonctionnement FFmpeg, je crois. Faudra que je regarde. FFmpeg, donc, c'est un moteur de manipulation de son et de vidéo. Donc ça fait le café, hein, franchement. Si vous voulez prendre un fichier et le convertir dans un autre format, vous pouvez. Si vous voulez juste lire un fichier audio, vous pouvez. Lire un fichier vidéo, vous pouvez. Incorporer des sous-titres, plein de trucs, on peut. Et donc c'est utilisé un peu partout. C'est assez rare d'avoir des nouvelles versions importantes dessus. Donc là, ça vaut le coup d'en parler. Surtout qu'il y a un changement assez important pour que, en plus, cet outil soit plus utilisé encore. C'est que désormais, ils vont s'astreindre à faire des versions stables et maintenues dans le temps. Donc là, ils vont faire une version qui va tenir 2 ans. Donc on peut espérer aussi que FFmpeg soit utilisé par plus de projets, y compris des projets plus commerciaux qui ont besoin de ce genre de support. C'est toujours une bonne nouvelle d'avoir ce genre de logiciel qui progresse.
Valve sponsorise du matériel pour le test automatique des pilotes libres Radeon.
Tout à fait, et ça, on ne pense pas à quel point ça peut être important, ce genre de truc. Parce que, on ne va pas le cacher, dans le monde du développement logiciel, même dans le monde du logiciel libre, on a quand même une forte distinction entre... les gens qui font du logiciel libre avec une entreprise derrière qui met une belle masse de pognon sur le tapis et où ils ont toute l'infrastructure, tout le matériel nécessaire pour faire le test. Par exemple, des navigateurs web. Enfin, Firefox est un navigateur web libre, mais ils ont des moyens colossaux. LibreOffice, ils ont très peu de moyens par contre.
C'est quand même c'est deux projets qui ont l'air professionnels tous les deux d'ailleurs.
LibreOffice, ils ont très peu de moyens, hein, ils en manquent, mais bon. Hein, on va pas demander à des entreprises de payer non plus, hein. On est entre bonnes gens quand même, on va éviter ça. Et donc, ben là, un des éléments sous Linux qui souffre de ça, ben en fait, c'est le développement des pilotes de cartes graphiques. Parce que autant tout ce qui est pilote réseau, tout ce qui est gestion de processeur, tout ce qui est gestion de trucs qui peuvent intéresser les gros, qui peuvent intéresser Google, qui peuvent intéresser Amazon, ah ben là il y aura du pognon. Il y aura des ressources, il y aura des gens, de l'argent, du temps, du matériel, il y aura tout ce qu'il faut. Par contre, développer des pilotes de cartes graphiques pour Linux, il n'y a personne. Il y a quelques développeurs. Honnêtement, les développeurs de l'ensemble de la partie graphique sous Linux, c'est moins que le nombre de développeurs pour le pilote d'une carte graphique sous Windows. Il y a moins de développeurs pour...
Parce qu'il y a moins de gamers sous Linux.
Oui, et il y a moins de sous.
Il y a moins de sous aussi.
Voilà, on donne pas les sous. Alors sous Windows, ben forcément, si vous arrivez avec votre armée de développeurs à gagner une image seconde sur tel jeu, oh, champion du monde, vous êtes devant les autres sur les benchmarks. C'est vachement mieux. Et du coup, la Valve a fait un geste assez fort, c'est qu'ils ont donné, non pas des humains, non pas de l'argent
directement, disponible.
Voilà, ils ont donné directement du matériel pour pouvoir faire des tests automatiques sur un ensemble de cartes graphiques Radeon pour le pilote libre. Et ça, c'est extrêmement important, puisque ça veut dire que demain, les développeurs qui voudront ajouter de nouvelles fonctionnalités, ajouter le support de nouveaux matériels, etc., pourront le faire sans risquer de casser de l'ancien matériel, ou en tout cas sans risquer de le casser sans s'en rendre compte. Là, ils auront une alerte pour leur dire là, il vient d'y avoir ce changement-là. Eh bien, cette machine-là, elle ne répond plus correctement maintenant. Il faut regarder ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu comme régression. Ce genre de test automatique, donc de continuous integration, c'est extrêmement important et on n'a pas souvent des entreprises qui viennent donner du matériel pour qu'on puisse le faire. Donc c'est une excellente nouvelle et c'est pour ça que je me suis permis de l'intégrer, même si elle est assez obscure finalement pour l'utilisateur final.
Les prochains processeurs Intel ne permettront plus la lecture de Blu-ray en ultra haute définition, puisqu'un jeu d'instruction va être déclaré obsolète, deprecated, donc ne sera plus implanté sur les prochaines puces de chez Intel. Bon, pas dire qu'il y a quand même du monde qui utilise un lecteur Blu-ray ultra HD pour lire en lire sous PC, pas non plus, mais bon. C'est quand même une illustration, Pierre, des dégâts de ce que peuvent faire les DRM, qui ont été introduits d'ailleurs avec, pas uniquement pour ça, mais avec le Blu-ray, avec un peu le DVD aussi, mais surtout le Blu-ray.
Alors, pour information, hein, c'est pas, ça va être supprimé, c'est les nouveaux processeurs Intel qui sont sortis là récemment, je crois qu'ils sont en vente depuis 9 mois. Donc les familles Rocket Lake et Alder Lake, pour ceux qui suivent les noms de famille des processeurs Intel. Donc c'est plus supporté, c'est les instructions SGX donc, qui étaient supportées à partir de 2015. Donc il y a une fenêtre très courte. Hein. Si vous avez acheté du matériel entre 2015 et 2021 pour lire des Blu-ray ultra haute définition, elle vous a intérêt à le garder parce que vous ne pourrez plus lire après. Vous pourrez lire uniquement le DVD en format définition haute définition, pas en ultra haute définition. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'au final... c'était ce qui permettait d'avoir du home cinéma de très haute qualité. Alors, on pourrait débattre sur est-ce qu'on peut vraiment voir la différence entre de la haute définition et de la ultra haute définition, etc. Mais c'était l'une des rares solutions techniques pour le faire avec du matériel qu'on pouvait acheter dans le commerce. Après, donc, déjà pour nous, Linuxiens, il y avait le problème qu'on n'avait pas les logiciels pour le lire. Mais alors, même donc, sous
même
Windows.
Les Windowsiens ne pourront pas.
Même sous Windows, on ne pourra plus. Désormais, il faudra avoir un matériel spécifique pour le Blu-ray Ultra HD. Je ne sais même pas si ça se trouve facilement. C'est d'ailleurs, j'aurais dû aller vérifier ça avant l'émission. Tiens, ça aurait pu être drôle. Je vérifierai ça pendant la pause.
Mais et la pause, elle arrive tout de suite avec un second morceau de musique. Nous allons écouter Roller Genoa, Safe and Warm in Hunter's Arms. Vous écoutez Écoutez nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campuslille.com.
Thank you.
C'était Wallard Genoa, Safe and Warm in Hunter's Arms. Vous écoutez l'Écho des News sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campuslille.com. C'est la troisième partie des actualités. On parlait d'ERM avant la pause musicale et on va continuer à parler d'ERM avec l'histoire de l'arroseur arrosé. Vous savez que les fabricants d'imprimantes vous vendent également les cartouches. C'est quand même une grosse partie de leur marge.
Et non, non, toute leur marge.
Toute leur marge, j'ai pas les calculs, j'ai pas les données comptables.
C'est négligeable le reste.
Pour éviter que vous achetiez de l'encre, parce que bon, y a beaucoup d'entreprises qui savent faire de l'encre ailleurs, et du coup avoir de la clientèle captive et une puce qui permet d'être reconnue avec donc une signature électronique, donc reconnue par l'imprimante, pour dire que votre cartouche va bien pêcher le bon fabricant, et si vous ne l'avez pas, il va dire attention, votre imprimante, elle risque de moins bien fonctionner, il y a des fonctionnalités qui ne marcheront pas. Et ben, de par la pénurie de puces, hein, de composants électroniques, ben, qui touche beaucoup de secteurs, notamment, pas uniquement celui de l'informatique, mais du coup des domaines connexes, enfin, la voiture notamment, et que les constructeurs n'arrivent pas à honorer leurs commandes à cause... enfin, en tout cas des commandes dans les temps à cause de cette pénurie. De ce fait, Canon, c'est le fabricant d'imprimantes, est obligé d'expliquer à leurs clients que bon, bah, c'est pas grave, on va vous vendre des cartouches sans la puce, mais si vous voyez des messages d'erreur, bah, vous en tenez pas compte. C'était uniquement pour vous faire payer les cartouches plus chères.
Alors, il y a un argument qu'ils donnent, mais qui moi m'inquiète un petit peu quand même, c'est que l'argument qu'ils donnent, c'est que alors attention, sans la puce, peut-être que ça ne va pas vous donner le niveau de l'encre dans la cartouche. Oh là là, c'est compliqué, hein. Un système qui compte le nombre d'impressions, non. Non, c'est... non, on va éviter. Hein. Pourquoi le truc qui marche très bien avant, et là maintenant ça devient plus compliqué à faire. Je suis un peu surpris. Mais oui, il faut savoir, de toute façon, les cartouches, soyons assez limpides. Les imprimantes jet d'encre, pour les particuliers, c'est une connerie. Ça n'aurait jamais dû être vendu. Puisque les imprimantes jet d'encre, le problème, c'est que l'encre, ça sèche si on s'en sert pas vite. Et du coup, ben, pour les particuliers, on se fait avoir, puisqu'on se retrouve avec des cartouches qui sont sèches très rapidement. Et du coup, ben, on achète un truc qui coûte plus cher que le plus cher des parfums. C'est véridique, hein, les cartouches d'encre sont à moitié vides. Donc on achète des trucs qui coûtent plus cher que du parfum pour au final le jeter parce que ce sera sec et que ce sera plus utilisable.
Ah, c'est le prix d'un grand cru. Hein. C'est...
Ah non, c'est...
La valeur d'un grand cru.
Ah ouais, ouais.
Parce qu'on va être pas très loin du Romanée Conti. Là.
C'est honteusement cher. Donc ben là, voir ça en plus comme...
Si quelqu'un a essayé de mettre du Romanée Conti du coup dans sa cartouche d'impression.
Quoi ?
Je sais pas si quelqu'un a déjà essayé de remplir avec du Romanée Conti sa cartouche d'impression.
Pour faire des économies.
C'est ça.
Ouais, mais le problème, c'est que tu peux faire qu'une seule couleur avec ça.
Couleur...
Non, mais c'est drôle que Canon se prenne les pieds là-dessus. Ça va pas être les seuls, parce qu'il y en a d'autres qui ont ce même genre de procédé. C'est juste que ce sont les premiers à se faire avoir par la pénurie de puces et à admettre que bon, ben, le truc qu'on a mis en place pour vous faire hacker, bon, ok, on a abusé. Mais ils l'avouent même pas comme ça. Ils disent juste « Ah, vous aurez plus certaines informations, désolé ».
Mauvaise nouvelle en provenance du domaine des jeux vidéo. Humble abandonne la compatibilité Mac et Linux à la fin du mois.
C'est même un peu plus vicelard que ça. Donc c'est pour ça aussi qu'il est assez important d'en parler. Humble, qui faisait les Humble Bundle à partir de 2010 avec le support de Linux et de macOS, a décidé que, ben, incessamment sous peu, c'est-à-dire au 31 janvier, ils vont fermer la boutique pour tout ce qui était jeux sans DRM en plus pour Linux et Mac, et ça va n'être plus que les jeux avec abonnement et sous Windows uniquement. Fin. Au 1er février, tous ceux qui ont acheté des jeux sur Humble Bundle mais qui ne les avaient pas encore téléchargés, c'est terminé, vous n'y aurez plus accès. Donc là, vous avez, si vous avez déjà acheté des jeux sur
Humble... C'est légal, ça ? C'est pas très 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 légal, ça.
Ils sont américains. Ils t'emmerdent.
D'accord. Et même le consommateur américain ne se plaint pas. Pourtant, il se plaint, le consommateur américain.
Eh bien, écoute, on laissera les consommateurs américains se plaindre. Mais là, aujourd'hui, c'est... Allez, si vous n'avez pas téléchargé vos jeux avant le 1er janvier, c'est terminé, vous les aurez pu. Point.
Sauf que le 1er janvier, c'était il y a 3 semaines.
Non, le 1er février.
Oui.
Excuse-moi.
Il disait aussi.
Bien entendu, ils l'ont annoncé longtemps à l'avance. Hein. C'est là, on vous le dit un petit peu au dernier moment. Hein. Ils l'ont annoncé le 14 janvier. On aurait pu l'annoncer un peu plus tôt, hein, mais... On va pas faire d'émission toutes les semaines non plus, juste pour annoncer les conneries de certains éditeurs.
Pierre nous propose un pot-pourri Google. The Google Best Of.
Ah bah là,
The
c'est
Google Symphony.
Le meilleur off best of.
Google nie l'abus de position dominante au Texas.
Ah ben ça alors.
Et pourquoi au Texas d'ailleurs?
Au Texas.
Au Texas.
Et ben oui. Au Texas parce que ils avaient un procès au Texas et dans d'autres États. Enfin, ils gèrent les procès les uns à la suite des autres. Et donc au Texas, c'était un procès sur l'abus de position dominante sur le marché de la publicité en ligne avec des stratégies, somme toute. Alors, supposées, hein, les stratégies supposées, assez audacieuses, c'est-à-dire qu'ils jouaient sur le marché des enchères qu'ils avaient eux-mêmes mis en place pour se favoriser, pour forcer les clients à payer plus, pour favoriser Facebook avec lequel ils avaient signé un contrat spécifique. Bon gros, bonne grosse embrouille. Et donc, la défense de Google, c'est non, c'est pas vrai. Alors, la défense de Google...
Est-ce qu'ils ont développé un petit peu plus, tout de même?
Ils ont dit, c'est pas vrai, vous avez pas de preuves.
D'accord. Et... Après, devant un tribunal, c'est une argumentation qui peut se faire entendre.
Et...
Sauf si le parti qui poursuit a des preuves.
Voilà. Et ils ont dit, et sur certains trucs, vous avez attendu trop longtemps pour aller en justice. Les prescriptions.
Ouais, ce sont des ressorts légaux courants, des... Pierre.
Oui, tout à fait, tout à fait.
T'as pas de preuves et c'est trop tard, et te dire...
Ah oui, c'est cool, c'est, je ne dis pas le contraire.
C'est pas Google qui a l'exclusivité de ce genre de procédé, quand même.
Non,
ce genre
tout
de
à fait, mais je trouve...
Il y a un ministre de l'Intérieur aussi qui... Pardon, excusez-moi.
Oui.
Qui est maire de Tourcoing, je crois.
Oui, je crois, ouais. Voilà, c'est... C'est toujours rigolo de parler des procès qu'ils ont en cours. Sinon, toujours sur l'aspect concurrence, l'Office fédéral des cartels en Allemagne vise Google dans le cadre d'une procédure donc sur le non-respect de la concurrence sur le marché de... C'est lequel? Je ne sais même plus à force.
On ne sait plus sur quel marché on parle.
Parce qu'il y en a tellement. J'aurais dû relire le rapport. Sur différents marchés en plus, là c'est global, cadeau. Et une dernière, celle-là, elle est vraiment intéressante, et j'avoue, j'espère que ça va se propager. Il y a un site web qui est sorti, et j'ai pas noté l'adresse, faudra que je la retrouve. Google Analytics est un produit extrêmement utilisé aujourd'hui, par je ne sais combien de milliers de sites web, pour suivre un petit peu l'activité des utilisateurs sur votre site. Vous savez qu'un utilisateur s'est connecté de tel pays, puis de tel pays, puis de tel pays, etc. Et ça permet de faire des statistiques, dire « Ah ben lui, il est revenu, lui, il est resté 5 secondes, lui, il est resté 10 secondes, lui, il a passé les... »
Ce qui est des données très utiles à des annonceurs.
Exactement, et très utile aussi aux développeurs de sites web, on ne va pas se le cacher. Même si ça peut être utilisé à très mauvais escient. Et donc désormais, il existe un petit site web fort sympathique, isgoogleanalyticsillegal.com, qui montre une petite carte de l'Europe avec en rouge les pays où Google Analytics est désormais illégal. Pour l'instant, il y a Autriche et Pays-Bas. J'ai hâte que la France y soit. Et donc, pourquoi c'est illégal? Eh bien, parce qu'il n'y a plus d'accord global pour le transfert des données d'Europe aux États-Unis. Et l'équivalent de la CNIL aux Pays-Bas et en Autriche a jugé que Google Analytics fait des transferts de données vers les États-Unis et fait des analyses de données qui sont illicites vis-à-vis du RGPD et que par conséquent Google Analytics est un produit illégal.
On attend l'avis de la CNIL.
Oui, tout à fait. Et moi, j'ai hâte que Google Analytics soit interdit de tous les sites web juste pour vous les voir pleurer. Et peut-être qu'ils réfléchiront et qu'ils se diront « Tiens, mais ça me coûte rien d'héberger un logiciel libre qui fait ça et de le mettre sur mon serveur plutôt que de tout donner à Google. »
On parlait du monopole d'Apple sur le paiement sur son propre store lors de la précédente émission. Et les Pays-Bas, encore, les forcent donc à ouvrir leur système de paiement.
Alors là, je ne dirais pas le nom de l'autorité qui le fait parce que c'est du néerlandais et pour moi, c'est du chinois. Enfin, la prononciation va être dégueulasse, donc je ne vais pas me lancer dessus. Mais donc, l'autorité néerlandaise, la concurrence, a lancé une enquête...
Non, il y a l'ACM, hein, tu peux juste
oui,
utiliser l'ACM. Le sigle. Hein.
Le sigle, effectivement. Donc l'ACM, ouais, mais je ne sais même pas comment on le prononce ACM en flamand.
Néerlandais. Tu veux nous fâcher avec la moitié de la Belgique?
Ah, ça va, ils nous entendent pas, ils nous comprennent pas, ils parlent pas la langue. Donc, l'ACM a rendu sa décision la veille de Noël. Donc, Apple avait 2 mois pour s'adapter, mais uniquement sur les applications de rencontre. Pour l'instant, c'est ouvert léger. Hein, malheureusement, il n'y a pas beaucoup plus de contraintes. Pour rappel, lorsqu'une application sur iPhone vous demande de faire un paiement pour un abonnement ou quoi que ce soit, même si c'est, par exemple, l'application d'une chaîne de télé qui vous demande un abonnement pour le replay, si vous payez par l'iPhone, 30% de ce que vous payez part dans la poche d'Apple. Donc quand un développeur d'application se fait $1 million de chiffre d'affaires sur iPhone, il y a $300,000 qui sont partis dans la poche d'Apple. Après, on s'étonne qu'ils aient un immense trésor de guerre. Et donc, là, ils ont l'obligation de faire, y compris pour les applications internationales, il va y avoir une obligation de proposer des systèmes de paiement alternatifs. Ça va faire du bien.
Alors, est-ce que ça va s'aimer en Europe?
J'espère. Il serait temps.
On se retrouve avec la dégeekalisation après un troisième morceau de musique. Nous allons écouter The Fire Project, Kind of Light. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. Oui, oui.
Non mais j'ai lancé. Hein. Someone living so full of love allowed to me again. I can't
C'était The Failed Project, Kind of Light. Vous écoutez Les Codes Igloo sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous, c'est l'heure de la dégeekalisation. Pierre, ça va être technique. Pluton, AMD et son PSP, matériel Android, avenir sombre pour nos PC.
Tout à fait. C'est un petit pot pourri de quelques actualités qu'il y a eu ces derniers temps, et je vous l'expliquais un petit peu plus en détail. C'est des actualités très techniques, mais qui m'inquiète un petit peu sur la tendance que ça dessine. Tout d'abord, donc juste un petit rappel, jusqu'à maintenant, tout ce qui était ordinateur, on va dire ordinateur type PC, ordinateur x86, il y avait quelque chose d'extrêmement pratique, c'était que le matériel avait une description de lui-même qui était accessible. Donc lorsqu'on installe un Linux sur un PC, puis sur un deuxième, puis sur un troisième, même si les PC sont complètement différents, on s'attend à ce que le système il peut détecter le matériel automatiquement parce que le matériel se décrit. Alors que sur beaucoup d'appareils type les téléphones portables, c'est l'extrême inverse. Deux téléphones portables, des fois de la même gamme, des fois le même modèle, mais juste parce que c'est la révision suivante du téléphone, il faut changer des options tellement bas niveau que il faut un Linux différent. On ne peut pas faire tourner le même système des deux côtés. Donc jusqu'à maintenant, nos PC, c'était peinard. On pouvait faire les modifications qu'on voulait. On avait la possibilité plus facilement de tester différents matériels, on n'avait pas trop à se prendre la tête, etc. Et là, il y a des petites modifications qui ont été introduites dans Linux récemment qui mettent un peu mal à l'aise sur des belles pratiques qu'ont eu certains fabricants de tablettes avec des processeurs classiques de PC. Donc moi je m'attendais à ce que ces tablettes, on puisse faire tourner un Linux facilement dessus. Ça fait tourner un Android, il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas tourner un Linux classique. Et pas du tout, parce que les fabricants en question, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, nous on va fournir un Android et on va mettre comme des ports la description du matériel, on va la mettre dans l'Android directement, on ne va pas mettre la description du matériel de manière standard. Comme ça vous ne pouvez pas utiliser le Linux que vous voulez. C'est assez dégueulasse et ils l'ont fait. Donc là, aujourd'hui, maintenant, on se retrouve à avoir des développeurs du noyau Linux qui codent des pilotes hyper spécifiques pour le matériel qui est réputé cassé, qui est réputé comme étant dégueulasse. Donc, typiquement, des tablettes Android qui ont une architecture de type PC dedans, pour faire tourner Linux dessus, il faut avoir le dernier Linux avec les derniers pilotes spécifiques pour ça, juste parce que la description du matériel dedans, ils l'ont pas faite, ils ont préféré faire les gros ports en préinstallant. C'est aussi l'un des inconvénients du coup de la préinstallation d'un système, c'est que ça permet aux fabricants de prendre quelques légers raccourcis. Donc même si demain des PC étaient préinstallés avec Linux, personnellement je serais pas forcément ravi non plus de ça. Ça, c'était la petite mise en bouche. On va parler d'un sujet après un petit peu plus fun. Il y a une évolution en cours. Aujourd'hui, c'est pas encore une menace, mais c'est quelque chose qui commence, moi, qui me chatouille. Ça gratouille. Il y a une petite nouveauté qui a été annoncée à un salon électronique il y a 10 jours par Lenovo, un fabricant d'ordinateurs portables notamment. Et donc ils ont annoncé que leurs nouveaux ordinateurs portables allaient être vendus avec des processeurs AMD et la puce de sécurité Pluton d'un certain Microsoft. Puce de sécurité Microsoft dans un ordinateur.
Ça s'annonce mal déjà.
Voilà, pour un libriste, ça
gêne. Il y a un côté qui rassure
ça
pas.
Ça gêne. Alors, aujourd'hui, la description de ce que peut faire Pluton, il y a des gens qui l'ont analysé, des gens qui sont libristes, qui ont analysé, qui ont dit, pour l'instant, c'est pas une menace, c'est pas pire. C'est pas pire que ce qu'on a actuellement. C'est-à-dire que c'est pas pire que le Secure Boot qui rend l'installation d'un Linux beaucoup plus chiante sur une machine. C'est pas pire que les puces de sécurité actuelles des machines. Ça peut être soit désactivé, soit fonctionner comme les puces de sécurité actuelles, soit fonctionner comme une puce spécifique pour des usages de Microsoft. Admettons, j'avoue que l'incursion de Microsoft sur ce domaine-là, elle me gêne beaucoup déjà. C'est quelque chose qui me plaît pas parce qu'en plus, derrière, c'est continuer à mettre en avant du Secure Boot. On ne sait pas non plus ce que peut faire la puce. Parce que Microsoft. Parce que jusqu'à maintenant, c'est un changement qui me gêne un petit peu, c'est que jusqu'à maintenant, il y avait une description de ce que Microsoft attendait du matériel. Et du coup, bah, on pouvait en déduire ce que faisait le matériel, vu que le matériel répondait à une spécification de Microsoft. La Microsoft qui dit aux fabricants, mettez notre puce.
Et faites-nous confiance.
Qu'est-ce qu'elle fait, cette putain de puce ? Bah, on ne sait pas. On ne sait pas exactement ce qu'elle peut faire. Alors, moi je sais pas. Globalement, hein, faire confiance à nos PC, c'est compliqué. Mais là, ce point-là, ça m'emmerde aussi pas mal. Est-ce que la puce peut accéder librement à la mémoire ? Moi, je sais pas. On ne peut pas savoir. Est-ce que la puce peut faire des actions au démarrage avant que le système ne prenne le relais ? On ne sait pas. C'est pas documenté. Et du coup, comme on dit, hein, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et une dernière pour la route dans ce pot-pourri d'évolution matérielle sur les PC qui fait peur. Alors, pour le coup, c'est pas inquiétant d'un point de vue logiciel libre, mais j'avoue que ça me met légèrement en colère d'un point de vue écologique, pour le coup. Parce que, gros avantage quand on achète un ordinateur. Un ordinateur portable notamment, on peut le faire aussi, même si c'est un peu plus rare, c'est de pouvoir dire « Ah merde, il y a cette puce-là qui est HS » ou « Ah merde, j'ai besoin d'un peu plus puissant, ben je vais changer le processeur. »
Alors c'est un argument qui était quand même en vogue fin des années 90, début 2000. Est-ce qu'il n'est pas un peu caduque parce que c'était déjà un argument commercial à l'époque, là, les magazines PC, alors le PC est plus ou moins évolutif. Au final, à part, je dirais, l'utilisateur très avancé, l'expert qui a vraiment s'amusé vraiment à changer une barrette de RAM ou mettre un processeur plus puissant, plutôt que de changer, de toute façon, changer le processeur, il faut changer la carte mère avec.
Non,
en général, souvent.
Il y a deux semaines, le processeur de ma belle-sœur a cramé.
Et ben, oui, on va
changer uniquement le processeur.
Je suis d'accord, tu peux réparer.
On va pouvoir changer uniquement le processeur.
Mais à l'usage, ça reste rare.
Ça reste rare.
En général, le même APC fixe, tu changes la tour.
Sauf qu'il y a quand même des arguments là-dessus. On va parler uniquement de l'argument de la réparabilité. Et là-dessus, AMD en plus a introduit un argument assez solide récemment, c'est qu'ils ont introduit un format de puce, donc qu'ils ont nommé AM4, et qu'ils ont gardé pendant, je vais pas dire de bêtises, mais ils l'ont gardé pendant au moins 5 ans. Je vais essayer de retrouver en vitesse sur Wikipédia combien de temps ils l'ont gardé. Mais donc, vous achetiez un ordinateur avec un processeur AMD il y a 5 ans, vous dites « Ah merde, j'ai besoin de plus puissant maintenant » ou bah, « Le processeur lâche » ou quoi que ce soit, et ben vous pouvez passer sur un processeur plus récent où vous pouvez juste changer la carte mère sans problème. Et donc voilà, ça a été sorti en 2017, c'est le socket AM4, et aujourd'hui, il n'est pas encore remplacé. Il sera remplacé fin 2022 a priori, donc il aura tenu 5 ans. 5 ans pour pouvoir garder des cartes mères ou des processeurs, c'est déjà pas mal. C'est pour ceux qui font évoluer leur matériel souvent, ça permet de faire évoluer des morceaux du matériel seulement, diminuer un peu les déchets et électroniques. Mais, et ça c'est quelque chose que j'aime pas du tout, mais alors pas du tout, il a été révélé que certains fabricants d'ordinateurs, notamment Lenovo, verrouillent les processeurs et les limitent à leur système. C'est-à-dire que AMD introduit ça dans les processeurs, et j'avoue que je comprends pas pourquoi faire ça, à part avec des vendeurs qui leur mettent le pistolet sur la tempe pour les forcer à faire ça. Mais donc, les fabricants peuvent dire « Ce processeur ne peut être installé que sur une machine de ma marque. Les machines de ma marque ne peuvent accepter que les processeurs que moi j'ai vendus. » Et là, d'un coup, on a des gros problèmes pour le marché de l'occasion, on a des gros problèmes pour la réparabilité.
Oui.
Comment on fait pour dire « Alors, ça, c'est
mais du coup, c'est pas en contradiction avec, contraire aux lois, justement, contre l'obsolescence programmée.
L'obsolescence programmée,
surtout, oui.
Mais voyons, ils n'ont pas mis de date dedans. C'est juste pour s'assurer que tu achètes un produit supporté, c'est pour la garantie, voyons.
Mm-hmm.
Évidemment. Bah oui, ma petite dame, on fait ça pour le bien du consommateur. C'est assez tragique. Parce que là, du coup, pour le coup, on a déjà vu des machines avec des verrouillages idiots. J'ai chez moi une machine. J'aimerais bien changer la carte Wi-Fi pour avoir une carte Wi-Fi compatible avec le système libre Haiku. Et ben, je peux pas parce que si je change la carte Wi-Fi, la machine refuse de démarrer. Elle dit non, c'est pas la carte Wi-Fi qui était vendue avec l'ordinateur. Le BIOS interdit de changer la carte Wi-Fi. Si la carte Wi-Fi lâche, ben je peux pas la remplacer. Interdit.
Oui, ça c'est quand même très stupide.
C'est très stupide et c'était déjà le cas avant. Au passage aussi, c'est le genre de carte que tu peux vouloir remplacer, alors un peu moins maintenant, mais à l'époque, parce que je te parle d'une machine qui a plus de 10 ans, à l'époque, les évolutions de normes Wi-Fi étaient
fréquentes.
C'est
pas les mêmes normes, oui.
Et ça valait le coup de changer des fois pour avoir des bien meilleures performances. Bah là, ma cache, tu peux aller te faire voir, tu pourras pas changer. Jusqu'à maintenant, c'était sur des petites cartes, c'était sur du matériel un peu pourri, on va dire. C'était la façon pour les fabricants de maximiser leur marge. Là, maintenant, on commence à le faire du coup sur des gros systèmes, sur des machines qui valent des fois des belles sommes. Et à une époque, en plus, où on se veut un peu plus conscient de notre empreinte numérique. Oui.
Donc, et environnemental
le...
aussi.
Oui, oui. Je le vois un peu mal, ce changement. Ça m'inquiète.
Merci Pierre pour cette dégicalisation. C'était le 232e numéro de l'Écho des Gnous. On se retrouve dans deux semaines pour le numéro 233. Nous serons le dimanche 6 février à 19h jusqu'à 20h, comme d'habitude.
En direct approximatif.
En direct approximatif. On se quitte avec le début de Zack Clinton.
Bah, on va vraiment pas avoir le temps.
I am in love.
Moi, j'ai le chronomètre. Hein, il nous reste 30 secondes. On va mettre un générique.
40 secondes, on va mettre un générique. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez pour ceux qui restent sur Radio Campus en direct avec Chupa Pimento, les podcasts sur ecodegnou.org comme d'habitude.
Bye bye.
Bye bye.
Sur Radio Campus 106.6, le livre n'est pas une jungle. Le livre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.